Le journal, Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Attendu depuis 5 ans, le procès des attentats djihadistes de janvier 2015 en France est ouvert ce matin. Sous très haute surveillance, nous serons évidemment sur place au tribunal de Paris dès l'ouverture de ce journal.
C'est une conséquence de plus de la pandémie de coronavirus.
Oui, la branche fret de la SNCF a perdu un quart de son activité. L'entreprise qui devrait donc annoncer aujourd'hui la suppression d'une centaine de postes de conducteurs. Au lendemain d'une rentrée des classes à l'ombre, là encore, du Covid, invité de la rédaction aujourd'hui, Michel Roverchon. Bio, directeur du CNED, le Centre National d'Enseignement à Distance.
Dans votre journal également, l'actualité à l'étranger, avec tout d'abord le cri d'alarme de la petite île de Lampedusa au large de la Sicile.
Oui, de nombreux migrants ont à nouveau débarqué sur place ces derniers jours, alors même que le centre d'accueil y est depuis longtemps saturé, d'où une réunion prévue aujourd'hui à Rome pour tenter de trouver une solution viable. Enfin, nous nous rendrons au Cambodge où nous avons appris ce matin la mort à 77 ans de l'ancien tortionnaire Duch, chef du plus redoutable centre de détention sous le régime des Khmer Rouges. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
C'est un point de vue situé, comme elle le dit joliment et comme elle nous l'expliquera dans une vingtaine de minutes, celui d'une fille d'immigrés marocains, habitante de Seine-Saint-Denis, politologue, militante et mère, Fatima Ouassa, qui a lancé le Front des Mères, publie aujourd'hui à la Découverte un livre où elle appelle à transformer la puissance des mères en force politique. Elle sera avec nous donc à partir de 12h55.
Merci et à tout à l'heure. C'est tout à la fois un procès unique et déjà historique, en même temps qu'impossible ou presque dès lors que les principaux accusés y seront absents. Bien qu'omniprésent. Ce matin, c'est donc ouvert au tribunal de Paris le procès des attentats de janvier 2015 qui, de la rédaction de Charlie Hebdo à l'hypercacher en passant par les rues de Montrouge, avait semé l'effroi et la consternation en France comme à l'étranger. Durant 2 mois et demi, 150 témoins et experts vont se succéder devant la cour d'assises spéciale pour y juger 14 personnes, dont 3 en fuite ou portées disparues. Toutes accusées d'avoir, à des degrés divers et dans l'ombre des assassins, fourni une aide logistique aux frères Kouachi, ainsi qu'à Amédi Coulibaly. Florence Thion, bonjour.
Bonjour.
Vous avez donc assisté ce matin, Florence, à l'ouverture de ce procès ultra sécurisé et masqué.
Oui, effectivement, vous l'avez dit, un procès sous très haute surveillance, contrôle de police dans un large périmètre autour du nouveau palais de justice, passe de Clichy à Paris, des contrôles et des fouilles systématiques qui se renforcent à l'intérieur et à l'approche des salles d'audience situées au deuxième étage et notamment la principale, la 202, où sont installées 5 caméras qui permettent de filmer les débats, de les enregistrer, de les retransmettre dans l'auditorium et les autres salles où sont installées des parties civiles et du public. Des salles où le port du masque reste obligatoire durant tout le procès, y compris pour les prises de parole, a indiqué le président de la cour, Régis de Jorna. Et les accusés ont donc fait leur entrée eux aussi, menottés et encadrés par les policiers en cagoule noire de la COTEP, une compagnie spéciale qui assure les missions d'escorte des détenus les plus dangereux. Les détenus ont pris place dans 2 box vitrées différents pour répondre aux obligations de distanciation sociale, un autre comparé libre, et l'ont indiqué après avoir décliné leur identité à la demande du président, tous ont l'intention de répondre aux questions qui leur seront posées au cours de ce procès.
Évidemment, Florence, la portée symbolique de ce procès est sans équivalent, tant son enjeu dépasse largement les 14 accusés.
Oui, les auteurs des attentats, vous le savez, ont été abattus lors de l'assaut livré par les forces de l'ordre. Ce procès sera celui de l'examen du soutien et des complicités dont ils ont pu bénéficier. Alors, procès de lampiste ou pas, partie civile et avocat de la défense s'opposent déjà sur ce sujet. Autour de cette question centrale posée par tous les procès du terrorisme, les accusés avaient-ils connaissance des intentions des projets terroristes quand ils ont fourni des armes ou apporté une aide logistique aux frères Kouachi et à Amédi Coulibaly. Un procès qui sera aussi celui de la parole donnée aux victimes. 17 morts, il faut le rappeler, au cours de ces attaques. Procès de la douleur, c'est sûr, de la cicatrice peut-être, des questions et des attentes pour beaucoup de ces parties civiles. Elles sont 200 ici venues témoigner et comprendre. Procès historique enfin, dans la mesure où il est filmé intégralement et et ces images versées aux archives nationales, mais aussi parce qu'il préfigure celui qui viendra en 2021, le procès des attentats de novembre 2015 au Bataclan et aux terrasses.
Merci Florence Sturm en direct du tribunal de Paris ainsi qu'à Marc Garvenès pour les moyens techniques. Alors au-delà cette fois-ci des faits disséqués, les enjeux sont encore multiples. Laïcité, liberté d'expression. Hier le président Emmanuel Macron a lui-même défendu la liberté de blasphémer en France. Après que l'hebdomadaire satirique et porte-étendard de l'irrévérence dans l'Hexagone a décidé de republier les caricatures de Mahomet qui en avait fait une cible des djihadistes. Ou dit autrement, ce procès est donc aussi éminemment politique. Dès lundi d'ailleurs, le ministre français de l'Intérieur avait donné le ton en rappelant que plus de 8000 personnes sont aujourd'hui inscrites au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. L'occasion de rappeler que c'est également avec des fantômes douloureux que les cinq magistrats ont rendez-vous devant la cour d'assises spéciale, qu'il s'agisse de celui d'Al-Qaïda, du groupe État islamique, sans oublier les guerres d'Irak et de Syrie, exploitées par les propagandistes islamistes et leurs agents recruteurs pour transformer des milliers de jeunes Français en djihadistes semeurs de haine et de mort. Enfin, je précise que ce procès sera suivi en 2021 par un autre procès fleuve, celui des attentats du 13 novembre 2015 au Stade de France, au Bataclan et sur les terrasses des cafés parisiens, dont l'effroyable bilan 130 morts et 413 blessés reste dans toutes les mémoires. Faire respecter l'ordre et la sécurité, c'est évidemment l'une de leurs missions. Et pourtant, les quelques 35 000 maires se retrouvent eux-mêmes et de plus en plus confrontés aux incivilités, voire aux agressions. Depuis le début de l'année, la tendance ne fait d'ailleurs que se confirmer. 233 édiles ont été pris à partie verbalement ou physiquement. D'où la réunion organisée ce matin à Matignon en présence des ministres de l'Intérieur et de la Justice, mais aussi des principales associations d'élus qui veulent donc en finir avec ces violences en série. Plus de fermeté, c'est le message qui a été lancé donc ce matin, Rosalie Lafarge.
Les agressions contre les maires sont en hausse, l'été l'a encore prouvé, et les élus, beaucoup d'élus se plaignent des lenteurs de la justice. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a tenu ce matin à rassurer les représentants de ces élus.
Chaque agression commise contre un maire, c'est une agression commise contre la République, et c'est naturellement insupportable. Et ça implique que la justice donne une réponse proportionnée, bien sûr, qu'elle donne une réponse systématique, bien sûr, et qu'elle donne une réponse immédiate, bien évidemment.
Le ministre de la Justice promet une nouvelle circulaire très rapidement avec plusieurs mesures pour encourager par exemple le parquet à retenir la qualification d'outrage en cas d'agression verbale d'un élu, ce qui permet de déclencher des travaux d'intérêt général, contrairement à l'injure jusqu'ici souvent retenue. Les textes, c'est bien, quand ils sont appliqués, c'est mieux, relève Christophe Bouillon, président socialiste de l'Association des Petites Villes de France.
Il y a eu une circulaire en 2019 de Nicole Belloubet, nous l'avions demandé pour qu'elle donne instruction déjà au procureur de poursuivre systématiquement et de faire en sorte à ce qu'il y ait une réponse pénale rapide. Force est de constater que ça n'a pas produit les effets attendus. Il faut que cette circulaire, très vite, on puisse l'évaluer et pour qu'ensemble on fasse le constat si oui ou non, enfin, ce genre de circulaire est appliqué.
Et cela implique, l'Association des maires de France insiste là-dessus, de doter la justice des moyens nécessaires.
La députée de la France insoumise, Danielle Obono, a annoncé ce matin qu'elle portera plainte contre Valeurs Actuelles. Après la sortie, c'était la semaine dernière, d'une publication de l'hebdomadaire la représentant en esclave. Si les opérateurs de fret ferroviaire attendent avec impatience l'annonce demain du plan de relance qui pourrait leur donner les moyens de remettre durablement des marchandises sur les trains, cela ne devrait pas empêcher le couperet de tomber dès aujourd'hui à la SNCF. La branche du secteur doit annoncer une centaine de suppressions de postes de conducteurs. Raison invoquée, avec la crise du Covid, le fret a perdu un quart de son activité, même si en réalité les différents plans de relance du secteur, comme sa libéralisation en 2006, n'ont jamais réussi à enrayer son déclin. Les précisions d'Annabelle Grelier.
Même si le transport de marchandises n'a jamais été totalement à l'arrêt comme celui des voyageurs pendant le confinement, il n'en a pas moins perdu jusqu'à 40% de son activité en mars-avril. Il accuse encore un recul de 25% pour cette rentrée. Les plus gros clients du fret SNCF, que sont l'automobile, la sidérurgie, la chimie ou encore le BTP, n'ont pas retrouvé leur rythme d'avant Covid. Conjugué à la mauvaise météo qui a donné une maigre récolte pour les céréaliers, le trafic est clairement en baisse. Quelques lignes ferroviaires vont donc être mises en sommeil, comme celle qui relie Calais à Turin ou celle du Luxembourg à Barcelone. En surcapacité, la direction a également choisi de supprimer une centaine de postes de conducteurs sur les 1000 actuels. Pas de licenciement sec, dit la direction de la SNCF Fret. Ils seront réaffectés au sein du groupe au trafic de voyageurs, assure-t-elle. Du côté des syndicats, l'annonce de licenciement n'est jamais bien accueillie, quelles que soient les promesses de reclassement, surtout au moment où le gouvernement parle de plan de reconquête du fret ferroviaire. Perçu comme la meilleure alternative pour limiter la pollution générée par le transport routier, il devrait en effet bénéficier d'une enveloppe dans le cadre du plan de relance. En attendant, le groupe SNCF devrait finir l'année dans le rouge et essuyer une nouvelle grève le 17 septembre prochain.
Si la visite d'Emmanuel Macron au Liban aura une fois de plus éclairé les très anciennes et étroites relations entre les deux pays, elle n'aura pas manqué de rappeler par ailleurs la relation plus intime, cette fois-ci qui lie le président français au pays du Cèdre, sans même parler de la banque Rothschild où il officia et qui s'intéresse de près à la restructuration de la dette libanaise. Plus récemment, dans les comptes définitifs d'En Marche, le Liban apparaît en bonne troisième place derrière les États-Unis et le Royaume-Uni comme source internationale de soutien sonnant et trébuchant à sa campagne victorieuse de 2017. Mais en se rendant donc sur place pour la deuxième fois en seulement un mois, la question était de savoir cette fois-ci au fond qu'est-ce que le chef de l'État français pouvait bien apporter au Liban. Réponse hier au terme d'une journée marathon. Emmanuel Macron a finalement arraché l'engagement des autorités à favoriser la formation d'un gouvernement dans les 15 jours. Le locataire de l'Élysée a même été jusqu'à fixer l'ordre du jour de la future équipe ministérielle avant d'annoncer qu'il reviendrait au mois de décembre. Et puis, le président français, toujours lui, est arrivé ce matin en Irak avec l'intention d'aider le pays à affirmer, je cite, sa souveraineté. Comprenez à l'écart des tensions entre les deux alliés de Bagdad, Washington et Téhéran. Rappelons que l'Irak, plus important producteur de l'OPEP, est aujourd'hui confronté à une conjoncture économique délicate aggravée par la pandémie de coronavirus, sans oublier l'émergence l'an dernier d'un puissant mouvement de contestation populaire. C'était il y a 5 ans, jour pour jour, la photo du corps sans vie d'Eylan, échoué sur une plage turque, avait choqué l'Europe au point que le destin de ce petit Syrien de 3 ans était très vite devenu à lui seul le symbole de ce qu'on appellera la crise migratoire, l'afflux chaotique de plus d'un million de déracinés sur le vieux continent. Or, 5 ans plus tard, non seulement la chute des arrivées n'a pas mis fin aux tergiversations des Européens quant à l'accueil de ces hommes, femmes et enfants, mais elle n'a pas davantage rompu avec les tragédies en mer Méditerranée. Pas plus tard que le week-end dernier, la petite île de Lampedusa, dont le principal centre d'accueil est aujourd'hui saturé en pleine pandémie, a encore accueilli près de 370 nouveaux migrants. Une situation sans précédent qui a même poussé son maire à appeler à une grève générale pour faire réagir le gouvernement. Alors son cri d'alarme a finalement été entendu puisqu'il sera reçu aujourd'hui même à Rome, conjointement d'ailleurs avec le président de la Sicile pour tenter de trouver une solution à cette crise. Les explications de notre correspondant à Rome, Bruce de Galzin.
C'était une première, le maire de gauche de Lampedusa menaçait le gouvernement d'une grève générale. Toto Martello l'a suspendu jusqu'à son retour ce soir de Rome et il espère obtenir une réponse claire de l'État. D'ici ce soir, 3 navires de quarantaine supplémentaires, il y en a déjà 2, vont permettre de désengorger le centre d'accueil de la petite île totalement saturée. Mais la réponse qu'attend aussi le maire est économique, car il dit craindre une révolte sociale. Selon le quotidien Il Giornale, l'idée de faire de Lampedusa une sorte de port franc serait sur la table, avec certaines taxes supprimées, d'autres allégées, et davantage d'incitations à investir sur l'île. Le ministre de l'économie sera d'ailleurs présent aujourd'hui au Palazzo Chigi, le palais du président du conseil. La ministre de l'Intérieur également, qui gère cette crise, mais pousse depuis plusieurs semaines, Giuseppe Conte, à donner un signal politique à 3 semaines d'élections régionales importantes, et alors que l'extrême droite italienne ne cesse d'accuser le gouvernement de favoriser l'immigration illégale.
À 63 jours de l'élection présidentielle américaine, les États-Unis apparaissent décidément plus que jamais divisés, emblème d'ailleurs de cette désunion. Le président Donald Trump, lui-même en visite hier à Kenosha, a salué les partisans qui l'applaudissaient au passage de son convoi dans les rues de la ville, tandis que des manifestants du mouvement Black Lives Matter le conspuaient sans jamais nommer Jacob Blake, cet afro-américain grièvement blessé par la police. Et après avoir inspecté les ruines de commerces brûlés, le locataire de la Maison Blanche n'a pas hésiter à assimiler les violences en marge des manifestations antiracistes à du terrorisme intérieure. Dans une conjoncture marquée par les tiraillements et les luttes d'influence, le Parlement tunisien a fini par voter hier la confiance au nouveau gouvernement de technocrates formé la semaine dernière, et ce dans l'espoir de mettre ainsi un terme à des mois d'instabilité politique. Tortionnaire méthodique et zélé sous le régime cambodgien des Khmers Rouges, Duch est mort ce matin à l'âge de 77 ans, seul responsable de la dictature ultra-maoïste de Pol Pot à avoir jamais plaidé coupable avant finalement de tout remettre en cause et de réclamer même sa libération. Il avait été condamné en 2012 à la réclusion à perpétuité. L'homme était notamment connu pour être le chef du redoutable centre de détention S21 où 15 000 personnes ont été torturées avant d'être exécutées entre 1975 et 1979. C'est une correspondance au Cambodge signée Juliette Buchez.
Dans les classes d'un lycée reconverti en prison, plus de 14 000 personnes ont été détenues, interrogées et torturées avant d'être exécutées dans les champs de la mort en périphérie de Phnom Penh. Seules 11 personnes ont survécu aux cellules de S21. Kangkek Iu, surnommé Duch, était le responsable du centre de détention. Y étaient emprisonnées les personnes suspectées d'être des traîtres au gré des nombreuses purges du régime. C'est en 1975 que les Khmers Rouges s'emparent du pouvoir. En moins de 4 ans, et au nom de leur utopie d'une société agraire sans classe, au moins 1 700 000 personnes ont perdu la vie au Cambodge. Les victimes sont mortes exécutées ou en raison des conditions de vie dans les campagnes, transformées en camps de travail pour toute la population. Duch disparaît à la chute du régime de Pol Pot en 1979, avant d'être retrouvé par le photographe Nick Dunlop en 1999, près de la frontière thaïlandaise. Il est incarcéré et sera finalement jugé en 2010, puis condamné en appel à une peine de prison à perpétuité en 2012. Aux côtés de Khieu Samphan et Nguyen Chi, Duch est l'un des trois seuls cadres du régime à avoir jamais été condamné. C'est d'ailleurs l'une des critiques récurrentes à l'encontre du tribunal spécial créé pour juger les principaux responsables du régime Khmer Rouge. Il est aussi le second à mourir. Nguyen Chi, considéré comme l'idéologue du régime, s'est également éteint l'an dernier.
C'est l'une des trop nombreuses conséquences de la pandémie de Covid-19. Selon l'UNESCO, seul un élève sur trois dans le monde va retrouver le chemin de son établissement scolaire en cette fin d'été. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas.
Cela signifie concrètement, Hakim, que sur un total d'1,5 milliard d'enfants scolarisés sur la planète, du pré-primaire au secondaire, eh bien 900 millions devraient, a priori, donc rester dans les prochains mois sans école ou mieux dans l'incertitude.
Oui, les régions du monde les plus touchées sont sans surprise l'Amérique latine, où le virus est encore très actif. D'ailleurs, le Pérou vient de reporter d'un an sa rentrée scolaire. En Afrique aussi, une grande partie des élèves risquent encore de devoir rester à la maison, sans compter que les outils numériques manquent et ne sont pas forcément développés et accessibles. Au niveau sociétal, cette fois, l'UNESCO estime que les jeunes filles seront les plus vulnérables dans cette crise, puisqu'elle craint fortement une hausse des mariages précoces et des excisions. Autant d'éléments qui vont augmenter le décrochage scolaire et dégrader la qualité de l'enseignement. L'UNESCO, qui alerte également sur les risques sociaux et économiques, Corée, à terme, la crise du coronavirus sur la scolarité, avec des parents qui doivent au quotidien se partager entre leur travail, l'éducation de leurs enfants et aussi la garde de leurs enfants lorsque ces derniers n'ont plus de devoirs. Selon l'UNESCO, il est donc très urgent que les autorités éducatives trouvent rapidement un moyen d'assurer le retour à l'école en présentiel, tout en assurant la sécurité des enfants et de leurs enseignants. Sachez Thomas que, en moyenne dans le monde, les enfants ont déjà perdu 60 jours de scolarité.
Merci Hakim Kasmi. L'invité de la rédaction aujourd'hui, le directeur du CNED, le Centre National d'Enseignement à Distance, Michel Reverchon-Billot. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour Thomas Cluzel.
Et toujours à mes côtés pour vous interroger, Hakim Kasmi. Une première question. En tant qu'opérateur de l'éducation nationale, le CNED a piloté bien sûr durant tout le confinement le dispositif mis en place pour assurer donc la continuité pédagogique dans les écoles, les établissements scolaires fermés à cause du coronavirus, dispositif qui passait notamment par la mise en place des classes virtuelles. Êtes-vous prêt à redéployer ce même dispositif en cas de reconfinement ?
Oui, tout à fait. Je crois que nous avons montré lors de la première phase de confinement que nous étions en capacité de réagir très vite et de proposer deux services majeurs dans Ma Classe à la Maison. D'une part, des parcours d'apprentissage pour les élèves de la petite section de maternelle à la terminale, et puis un service de classe virtuelle qui permet aux enseignants de renouer le contact avec leurs élèves à distance en organisant leurs cours par classe virtuelle. Donc effectivement, nous sommes prêts et nous avons amélioré le dispositif sous deux angles. Le premier, c'est d'abord une mise à jour évidemment des contenus pour couvrir la période du premier trimestre dès la rentrée. Et puis sur les classes virtuelles, nous avons sécurisé les classes virtuelles pour éviter que nous ayons des phénomènes d'intrusion non souhaités par les professeurs.
Alors justement, si aujourd'hui il devait avoir, malheureusement, on ne le souhaite pas, mais un reconfinement des enfants, notamment à la maison, avez-vous travaillé notamment sur l'accessibilité? Car on sait que très souvent, le réseau chez vous, notamment, était saturé.
Alors, le réseau chez nous n'était pas saturé, c'est plutôt l'accès à nos services qui l'était, notamment en matière d'équipement des familles. Là, nous avons monté en puissance, monté en gamme toutes nos infrastructures technologiques et pour la première période de confinement, nous n'avons pas eu de rupture de service. Les seules ruptures de service que nous avons constatées, c'est sur une autre plateforme qui s'appelle CNED.fr, qui est la plateforme d'entrée sur les services du CNED, qui effectivement, elle a subi a eu un nombre de connexions très très important. Il a fallu très très rapidement la monter en gamme pour qu'elle soit opérationnelle de nouveau. Ça n'impactait pas la continuité pédagogique.
Alors avez-vous prévu des programmes en plus? On sait que le ministre de l'Éducation a lancé des centaines d'heures de programmes, pas forcément que chez vous, mais avez-vous tiré justement les enseignements de cette crise en proposant des programmes variés et différents par rapport à ce qui existait déjà?
Alors ce que nous on propose, ce ne sont pas du tout des ressources pédagogiques qui sont à destination des enseignants pour faire la classe par exemple, mais ce sont bien des parcours d'apprentissage complets qui sont proposés aux élèves, que les élèves d'ailleurs peuvent accomplir en totale autonomie, donc ça c'est important. Notamment on a des demandes des familles très importantes sur ces parcours, mais bien entendu on est très loin aussi de l'orthodoxie de l'enseignement à distance tel qu'on le pratique au CNED, puisque je rappelle qu'au CNED nous scolarisons à l'année environ 79 000 élèves et nous avons des dizaines de milliers d'adultes en formation, où là évidemment il y a des parcours d'apprentissage, mais il y a aussi un accompagnement par les professeurs du CNED, des évaluations, des corrections de devoirs, tout ça évidemment en mariant à la fois l'intérêt du numérique, notamment pour tout ce qui est interactif et mise en activité, et l'intérêt de supports plus traditionnels de type papier pour des approfondissements, et c'est ce que nous mettons en place régulièrement pour nos élèves.
Alors justement, avez-vous eu des parents qui souhaitent, avec l'expérience du confinement aujourd'hui, que leurs enfants, notamment pour la raison sanitaire, accèdent plus facilement et viennent au CNED plutôt que de venir en présentiel dans les classes pour suivre leur scolarité?
Alors aujourd'hui, il est un peu tôt pour avoir des grandes tendances, puisque les inscriptions au CNED, généralement, c'est fin septembre, début octobre. En revanche, on a beaucoup d'interrogations de parents qui appellent notre centre d'appel pour savoir comment ils pourraient inscrire leur enfants au CNED, mais les demandes sont plutôt des demandes de réassurance. C'est-à-dire que nous avons deux modalités de scolarisation au CNED, la scolarité réglementée qui correspond à des cas bien spécifiques de maladies, de handicaps, d'itinérance, d'élèves sportifs de haut niveau. Et là, ce sont les directeurs académiques qui nous adressent les élèves avec une autorisation de scolarisation au CNED comme dans notre établissement. Mais nous avons la scolarisation libre, et c'est cette demande-là qui émane des familles aujourd'hui en disant: est-ce que je peux non pas déscolariser mon enfant de l'école ou le sortir de l'école en présentiel, mais est-ce que je ne peux pas compléter cet apprentissage en présentiel par soit des cours complets, c'est-à-dire j'inscris mon enfant en sixième en plus de l'école en présence en sixième au CNED, ou je prends quelques cours du CNED, donc la scolarité partielle, quelques cours pour renforcer ces apprentissages du présentiel. Donc on sent bien qu'il y a une inquiétude de certains parents qui se disent finalement si jamais les choses se passent pas bien comme il faut, ou si mon enfant est malade tout simplement, et s'il y a une rupture de continuité, j'aurai au moins les cours du CNED et éventuellement l'accompagnement des enseignants et des corrections et des évaluations.
Alors on le sait, les plateformes numériques comme la vôtre n'ont pas vocation à remplacer totalement l'école. D'ailleurs, on l'a vu, ce sont des chiffres du ministère de l'ADEPM qui s'occupe des statistiques et des études. Seulement 15% des enseignants ont utilisé les plateformes numériques pendant le confinement. Comment l'expliquez-vous?
Alors, si on parle des plateformes du CNED, effectivement, ces chiffres peuvent apparaître un peu incohérents par rapport à ceux qu'on l'on communique, puisque je vous rappelle que pour le CNED, puisqu'on a suivi très régulièrement les inscriptions, on a 500 000 professeurs qui se sont inscrits sur la plateforme Classe à la Maison, et on a un peu plus de 1,9 million de familles qui ont ouvert un compte. Donc, il y a plusieurs éléments d'explication. D'abord, comme je le disais tout à l'heure, ce que nous proposons, ce ne sont pas des ressources, puisque la question de l'ADEPM, c'était quelles sont les ressources que vous utilisez pour concevoir de l'enseignement à distance. Et les parcours du PNED sont déjà de l'enseignement à distance, donc ne se présentent pas comme des ressources qu'on peut agglomérer dans une fabrication de cours. Et puis aussi, la particularité de ces ressources, c'est que on a monté une plateforme d'urgence, donc elle, par définition, elle était là pour répondre au premier temps du confinement. On a d'ailleurs eu une explosion d'utilisation les 4 premières semaines, le temps finalement que les établissements et les enseignants s'organisent. Et donc, on voit bien que l'enquête de l'ADEPE qui s'est faite après le confinement ne prend peut-être pas en compte cette dimension-là d'urgence et d'utilité en début de confinement. Et puis par ailleurs, il est un peu compliqué d'analyser les usages d'un type de plateforme comme Ma Classe à la Maison. Parce que si je prends un exemple de Ma Classe à la Maison École, pouvez-vous très bien vous connecter une fois et puis télécharger, imprimer les cahiers d'activités pour les élèves de l'école primaire et ne plus retourner sur la plateforme. Pour autant, vous avez des activités pendant plusieurs semaines.
Bien, merci Michel Reverchon-Billot, directeur, je le rappelle, du CNED, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Hakim Kasmi. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Mitigé sur les reliefs de l'Est avec quelques averses. Un voile nuageux de plus en plus épais s'étendra par ailleurs de la Bretagne aux Hauts-de-France, en passant par la Normandie, partout ailleurs. Le soleil devrait encore s'imposer. Quant aux températures, elles afficheront entre 18 et 27 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.